Voici d'abord la lecture des deux textes liturgiques d'aujourd'hui. Donc l'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Dans ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, mais je ne me juge pas non plus moi-même. Car ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis point justifié pour cela. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez point avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, qui manifestera les desseins de cœur. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée, de la province de Traconitide et d'Isignas, tétrarque de la Bilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, et ce qui est raboteux sera aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors d'abord quelques annonces, donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu avoir la messe dimanche dernier sur internet, donc l'homme propose, Dieu dispose. Sachez que quand, pour une raison indépendante de ma volonté, je ne peux pas vous assurer exceptionnellement la messe, comme à cause de l'accident qui m'est arrivé, vous pouvez toujours prendre, pour ceux qui m'écoutent sur internet, la messe de l'année précédente, qui est déjà en vidéo, parce que je laisse toutes les vidéos sur internet. Donc quand vous avez, pour dimanche dernier, vous auriez pu prendre la messe du troisième dimanche de l'Avent de l'année 2020. Attention, ce jeudi, c'est le 23 décembre, c'est l'avant-veille de Noël, il y a jeûne et abstinence. C'est le pape Pie XII qui a déplacé le jeûne et abstinence de la vigile de Noël au 23. Donc pour le 23, jeudi, donc il y a jeûne pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, un repas par jour, et abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont plus de 7 ans. Pour Noël, évidemment, c'est une fête d'obligation, donc il y aura trois messes. C'est que le prêtre dit trois messes le jour de Noël. Minuit, bien sûr, puis 10h et 19h le soir. Attention, minuit, 10h, 19h. On fera un petit réveillon après la messe de minuit. Donc, vous êtes évidemment tout le monde est bienvenu. Dans la mesure où on peut pousser un peu les murs pour essayer de mettre de la place, avoir de la place pour tout le monde. Pour ceux qui viennent à la messe, qui ne m'ont pas encore prévenu, prévenez-moi bien pour que je puisse un peu préparer la chapelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, j'ai placé déjà sur l'autel les petits personnages qui nous représentent tous et qui amènent notre Sainte Vierge Marie qui attend son enfant au pied de sa statue là. Il faut nous mettre à la suite de cette farandole, de cette procession. Nous aussi, nous devons nous mettre en chemin avec les petits santons de la crèche pour nous présenter à la crèche. La crèche est toute proche maintenant, elle est à 5 jours, 6 jours. Et il ne faut pas oublier qu'il y a deux crèches. Une dont on n'est pas responsable et une dont on est responsable. La crèche dont on n'est pas responsable, c'est celle de notre Seigneur. Celle où il est né, à Bethléem, en Palestine, il y a 2000 ans. Là, c'est Saint Joseph qui s'en est occupé, avec la Sainte Vierge Marie. Il y a une deuxième crèche. Et celle-là, on en est responsable. C'est la crèche de notre âme. Notre âme est comme une petite crèche. Et notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon qu'il est venu, il a voulu naître dans le froid de la crèche de Bethléem, il y a 2000 ans, il veut aussi venir dans notre cœur. Et de la même façon que Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie ont préparé, un peu comme ils ont pu, la crèche de Bethléem pour recevoir le corps de leur enfant Dieu, de la même façon, il nous faut nous aussi préparer notre crèche, la crèche de notre cœur. Il y a déjà eu une préparation qui a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ dans cette crèche de notre cœur, de notre âme. Nous avons été baptisés. Par le baptême, c'est déjà une préparation extraordinaire, puisque c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Puis nous avons reçu sacrement de pénitence plusieurs fois pour effacer tous les péchés actuels commis après le baptême. Nous avons reçu la confirmation pour faire de nous des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu, pour moi, le sacrement de l'ordre pour recevoir un autre caractère, le caractère de ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont mariés, vous avez reçu le sacrement de mariage. Et maintenant, il faut achever cette préparation. C'est à nous de transformer notre âme qui doit devenir une maison de prière. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que si je ne prépare pas mon âme pour qu'elle devienne une maison de prière, qu'est-ce qui va se passer? D'une maison de prière, on va en faire une caverne de voleurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a utilisé le terme. Donc si je prépare mon âme correctement, peut-être par une bonne confession juste avant la fête de Noël, mon âme va devenir un lieu de paix, un lieu d'adoration, un lieu de vénération pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais pouvoir adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui va se sentir comme chez lui, chez nous, et qui va donc venir habiter chez nous. Et si au contraire, je ne prépare pas mon âme va devenir comme une caverne de voleurs. Rappelez-vous ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ au temple de Jérusalem, lorsqu'il a constaté que les politiciens de l'époque et les gens d'église de l'époque avaient transformé le lieu sacré en caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet de corde et il a mis tout le monde dehors. Il a mis tout le monde dehors. Et ça, c'est évidemment le symbole d'une âme qui est rejetée par Dieu. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. C'est ça qui est terrible. Alors, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre, justement, que nous devons utiliser ce temps de l'Avent pour préparer cette fête. Pourquoi est-ce qu'il faut faire pénitence? Souvent les gens nous posent cette question. Est-ce que la pénitence est facultative? Oui, pour tous ceux qui n'ont jamais péché. Vous n'avez jamais commis un péché? Vous n'avez jamais commis le moindre péché? Par exemple, un enfant, juste après le baptême, il n'a pas besoin de faire pénitence. Très Sainte Vierge Marie n'a pas besoin de faire pénitence parce qu'elle est Immaculée Conception. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux chemins pour aller au ciel. Chemin d'innocence, pour un bébé par exemple qui meurt juste après le baptême, ou chemin de pénitence. Et donc si j'ai eu le malheur de commettre un péché, la voie d'innocence est terminée pour moi. On ne peut pas retrouver l'innocence une fois qu'on l'a perdue. On peut trouver le pardon de Dieu, mais pas l'innocence. Sauf pour ceux qui n'ont jamais commis de péché, comme la Très Sainte Vierge Marie, qui est, elle, est parfaitement innocente parce qu'elle est Immaculée Conception. Et donc, à cause de ce péché, il faut payer. Il faut nous purifier de ce péché. Et les purifications qui ne changent rien, et puis il y a les purifications qui préparent une âme. La purification qui ne change rien, c'est là sa purification des gens qui ne sont plus dans le temps. Lorsque je meurs, je passe du temps à l'éternité. Rappelez-vous que dans l'éternité, je vous ai souvent expliqué cela, une fois qu'on est dans l'éternité, étant dans l'absence de temps, on ne peut plus changer. Le changement, c'est quoi? Saint Thomas a défini le changement, le passage de la puissance à l'acte. Pour changer d'état de vie, pour changer de pensée, pour regretter son péché, il faut être dans le temps. Est-ce qu'on peut regretter son péché une fois qu'on est hors du temps? Ce n'est plus possible. Parce que hors du temps, pour regretter son péché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, justement. Il faut la grâce du bon Dieu et l'usage de notre liberté. Ici, on a tout ça. Donc on peut regretter ses péchés. C'est ça qui est magnifique. Mais malheureusement, une fois qu'on est passé de l'autre côté, si on meurt dans l'état de péché grave, il n'y a plus de temps, plus de liberté, plus de grâce du bon Dieu. Donc on ne peut plus changer. Et à ce moment-là, c'est l'enfer pour tous ceux qui tombent comme ça, ce qu'on appelle une purification. Ce n'est pas une purification, c'est un châtiment permanent parce qu'on n'est plus dans le temps. Et un châtiment qui n'enlève plus le péché parce qu'on meurt dans la volonté d'offenser le bon Dieu.
faut jamais oublier ça. Mais le bon Dieu, dans sa miséricorde, il nous a donné, pour nous qui sommes dans le temps, des moyens extraordinaires d'enlever une partie du châtiment. Et là, il y en a deux. Le premier, c'est dans le temps, mais c'est une purification passive, ce qu'on appelle le purgatoire. Purgatoire, c'est quoi? Purgatoire, c'est un lieu où éclate la miséricorde du bon Dieu. Mais c'est un lieu où la miséricorde s'exerce pour nous de façon purement passive pour nous. C'est pour cela que les saint Thomas d'Aquin enseigne qu'une âme du purgatoire ne peut pas directement parlant, spécifiquement parlant, venir nous aider ici-bas. Parce qu'elle se purifie de façon complètement passive. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est très dommage d'oublier ça, c'est qu'il y a un autre moyen de diminuer le châtiment de nos péchés, voire même de l'éliminer complètement. Le purgatoire a pour but d'éliminer la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Attention, le purgatoire n'enlève pas le péché, enlève la peine temporelle du péché. Mais il y a un troisième lieu où on peut faire pénitence. Et c'est pour nous le plus intéressant, parce que Dieu exerce encore plus sa miséricorde dans ce troisième lieu. Ce troisième lieu, c'est lequel? C'est ici-bas. Ceux qui sont malheureusement en enfer ne peuvent plus rien faire. Ceux qui sont en purgatoire ne peuvent que se purifier selon la volonté du bon Dieu. Ici-bas, vous pouvez choisir vos pénitences. Et Dieu pardonne beaucoup plus le châtiment, les peines du péché, quand on fait pénitence volontairement, par amour pour lui, que quand on fait pénitence par obligation. Donc ici-bas, on peut faire pénitence. Il y a deux façons de faire pénitence ici-bas. Première façon, on fait pénitence ici-bas en choisissant nos pénitences. Par exemple, je veux dire une parole méchante à mon voisin et puis je garde ma langue dans ma bouche et au lieu de dire une parole méchante, je dis une parole gentille. C'est une manière de faire pénitence. Je veux me resservir une deuxième fois d'un plat qui me plaît bien et puis je fais une petite pénitence au fond de moi-même, je dis bon Dieu, voilà mon Dieu, je vous offre cette pénitence, cette réparation pour mes péchés, je ne me resserre pas. Ou au contraire, un tel plat qui ne me plaît pas beaucoup, je fais un peu pénitence, mon Dieu, il n'y a que moi qui veux le savoir et vous aussi, et je me resserre de ce plat que je n'aime pas beaucoup. Alors là, c'est très intéressant, pourquoi? C'est très intéressant parce que le bon Dieu voit que ce genre de pénitence est faite par amour. Et donc les saints enseignent que les pénitences qui sont faites par amour vont effacer beaucoup plus de péchés, non pas de péchés, mais de conséquences du péché, la peine temporelle des péchés déjà pardonnés, que le purgatoire. Mais ici-bas, une autre façon de faire pénitence. C'est d'accepter volontairement les pénitences que Dieu nous envoie. Ça, c'est pas facile. Accepter les pénitences que Dieu nous envoie. On a prévu des tas de choses. Moi, j'avais prévu des tas de choses magnifiques pour Noël. Je vais faire ça et ça et ça. Et toutes mes visions, il dit paf, bon Dieu a décidé autrement. Je me casse la figure dans l'escalier et je me retrouve avec un tendon brisé. Eh bien, c'est le bon Dieu qui a décidé ça. Il y a deux solutions. Soit je râle. Ça change en général rien du tout. Mais si je râle, j'ai un peu râlé, j'avoue, un peu râlé, mais tout seul. J'essaie de pas râler devant les autres. Si je râle, je gâche tout et je perds des grâces. Soit je dis au bon Dieu, écoutez mon Dieu, vous avez quand même une drôle d'idée de m'envoyer ça juste après l'arrivée de maman ici, et du coup je ne peux plus faire grand-chose, cependant que votre volonté soit faite. En acceptant cette volonté de bon plaisir, ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir, c'est la volonté de Dieu qui est manifestée par les circonstances, à ce moment-là, le bon Dieu pardonne les péchés facilement. Mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre ces choses-là, l'Église enseigne aussi que la pénitence, on est en pleine période de pénitence en avant, c'est aussi une épreuve. Une épreuve. On met les gens, les soldats avant, passer devant des épreuves. Pouvoir augmenter, gagner quelques galons, il fallait qu'ils passent des épreuves. Bien, le bon Dieu nous envoie des épreuves. Encore une fois, c'est facile d'être un bon soldat en temps de paix. C'est en pendant la guerre qu'on voit où sont les bons soldats. Eh bien, c'est en temps de pénitence, quand on a des petites tuiles qui nous tombent sur le dos, comme on dit vulgairement, c'est là où on voit où sont les bons catholiques. Où sont ceux qui aiment vraiment le bon Dieu. Et enfin, l'Église nous enseigne que la pénitence est aussi une leçon. On se croit très fort, on se croit capable de tout faire par nous-mêmes, et puis le bon Dieu permet qu'il y ait une épreuve pour nous rappeler la vertu d'humilité. Vertu d'humilité. Alors voyons un petit peu rapidement Qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que sont les conseils que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ? Si ces citations de Saint Jean-Baptiste dont il s'agit, c'est aussi le prophète Isaïe qui parle. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Préparons la voie du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut, préparons les chemins du Seigneur. Il faut terminer l'aménagement du sentier qui amène à la crèche, à notre crèche aussi. Parce que notre crèche, nous en sommes responsables. Et donc, il faut préparer le terrain. Il y a des ronces partout, il y a des pierres partout. Comment voulez-vous que le bon Dieu vienne dans notre âme si il ne peut pas rentrer parce qu'il ne peut même pas atteindre la porte de notre âme? Et donc, il y a tout un travail de préparation en utilisant les différentes puissances de notre âme. D'abord, il faut utiliser notre intelligence. L'homme est un animal raisonnable, attention. Donc, il faut utiliser notre intelligence pour atteindre plus facilement le vrai. N'oubliez pas que l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Donc, il faut utiliser ces temps de pénitence en utilisant notre intelligence. L'homme moderne est incapable d'utiliser son intelligence. Il passe un temps considérable devant les écrans, du coup, il ne sait plus utiliser son intelligence. Utilisons notre intelligence, justement, pour atteindre plus facilement, connaître plus facilement le vrai. Je conseille beaucoup à ceux qui ont un petit peu de temps pendant ce temps de Noël qui va arriver, même dès maintenant. Je vais vous donner deux exemples, peut-être de livres que vous pourriez peut-être un peu plus étudier pour ceux qui ont un peu de temps pendant cette période de Noël qui va arriver. Premier livre, c'est L'année liturgique de Don Guéranger, un auteur très sûr du 19e. Prenez le tome sur Noël, ou le tome sur l'Avent, sur un petit peu de temps avant Noël, et vous commencez à étudier ce qu'enseigne l'Église catholique par la voix de Don Guéranger, le grand bénédictin qui est le restaurateur de la fondation de Solesmes. Un autre livre, pour ceux qui ont un peu plus envie d'utiliser leur intelligence, je dirais, c'est de relire le traité de l'incarnation de saint Thomas d'Aquin. Vous avez au début de la tertia pars, sa troisième partie de la somme. Vous avez tous ces cours que j'ai mis sur Internet, justement, sur la somme théologique de saint Thomas. Vous avez un petit peu de temps, réétudiez le traité sur l'incarnation pour vous préparer à la fête de Noël. Puis, il faut utiliser aussi, pas simplement son intelligence, mais sa volonté. Pour accepter la volonté de Dieu, il faut accepter d'utiliser sa volonté. Puis il faut utiliser aussi notre irascible. L'irascible, c'est un pouvoir de combat qu'on a en nous qui nous permet d'éviter les tentations et de nous battre contre le démon, contre tous les adversaires. C'est pour ça qu'il manque aujourd'hui. Autour de nous, on est entouré de gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à détruire notre foi. Détruire l'intégrité de notre foi, détruire la pureté de notre foi. Donc il faut utiliser le don de force. Il faut utiliser l'irascible justement pour nous battre, ce qu'on appelle l'agrédit, la partie agressive. N'oubliez pas que la vie spirituelle est un combat. Un combat contre le démon, un combat contre notre volonté propre, un combat contre l'esprit du monde. Et il faut aussi le soustinérer, c'est-à-dire une fois qu'on a mis l'ennemi dehors, il faut bien fermer la porte pour qu'il ne revienne pas. Et puis, il faut aussi utiliser la quatrième puissance de notre âme, à savoir le concupiscible. Concupiscible, c'est quoi? C'est un désir des choses qui sont bonnes pour nous. Le problème, c'est que les péchés originels s'en mêlent et qu'on a souvent tendance à aller chercher, désirer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et donc, il faut utiliser, utiliser ce concupiscible justement pour rechercher les choses qui sont bonnes pour nous et éviter surtout la curiosité. Curiosité qui nous fait désirer des choses qui ne sont pas pour nous. Et concupiscible va nous amener à faire ces trois pénitences dont je vous ai souvent parlé, l'aumône, le jeûne, la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a trois concupiscences. L'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Une fois qu'on a compris ça, à ce moment-là, tout le texte cité ici par saint Luc prend tout son sens. Rendez droit ces sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire, rendez droit ces sentiers? Qu'est-ce qui fait que le sentier, au lieu d'être tout droit, va devenir tortueux comme un serpent? Ça, c'est la volonté propre. Le bon Dieu, il veut qu'on passe par là, mais nous, on a une autre idée derrière la tête. Alors, on veut suivre notre volonté, on veut suivre la volonté du bon Dieu. Donc, qu'est-ce que dit le prophète Isaïe? Rendez droit ces sentiers. Après, combler les vallées. C'est quoi ça? Les pères de l'Église expliquent, combler les vallées, c'est là éviter les péchés d'omission. n'y a pas seulement des péchés d'action, aussi des péchés d'omission, des choses que je devrais faire que je ne fais pas. Ça peut être un péché. Puis, Saint Isaïe, Saint Jean-Baptiste, c'était toute sa prédication, parle aussi de raser les montagnes. Montagne, c'est quoi? Les pères de l'Église expliquent, les montagnes, c'est les péchés mortels. Donc évidemment, il faut éliminer le péché mortel. On ne peut pas rentrer dans la maison, dans notre âme. On ne peut pas demander au bon Dieu de rentrer dans notre maison, dans la crèche préparée dans notre âme, s'il y a une montagne devant la porte, c'est évident. Mais Saint Jean-Baptiste explique davantage. Il dit qu'il faut aussi aplanir les sentiers. Ça veut dire quoi, aplanir les sentiers? Là, c'est les péchés véniels. Non seulement éliminer les péchés mortels, mais aussi enlever les péchés véniels. Alors, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut faire pendant ce temps de l'Avent, il y a beaucoup de temps de préparation. Il faut bien utiliser cette période extraordinaire de Noël. Noël est un temps de grande grâce. Donc, il faut utiliser cette période de grâce pour justement nous préparer davantage à la fête de Noël. En n'oubliant pas un point extrêmement important, c'est que si on a un petit peu de mal, le bon Dieu a placé à la porte de notre âme quelqu'un, la gardienne de la porte. Et la gardienne de la porte de notre âme, c'est notre Sainte Vierge Marie. C'est elle qui est à la porte. C'est elle qui est à la porte de notre âme, de même que notre Sainte Vierge Marie. On peut vraiment imaginer ça dans la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ en Palestine, à Bethléem, elle devait être à la porte. Et lorsqu'arrivaient les gens qui venaient adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'osaient peut-être pas trop rentrer parce que ils n'avaient pas grand-chose à offrir, c'est sûr que lorsque les bergers sont arrivés, notre Sainte Vierge Marie devait être à la porte, et elle a ouvert la porte. Mais rentrez, n'ayez pas peur. Même si c'était peut-être pas très propre, même s'il y avait peut-être des choses toutes simples à offrir, rien d'extraordinaire, notre Sainte Vierge Marie les introduit dans la crèche. C'est le rôle de notre Sainte Vierge Marie. De même que notre Sainte Vierge Marie est celle qui a été choisie par Dieu pour nous donner la divinité de son divin Fils et l'unir à notre humanité par le mystère de l'incarnation, de la même façon, notre Sainte Vierge Marie est celle qui est à la porte de notre âme et qui introduit notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Ce n'est pas l'extérieur qui rentre dans la crèche, c'est Dieu lui-même qui rentre dans notre crèche. Encore faut-il qu'elle soit bien préparée, même s'il n'y a pas grand-chose. Notre Sainte Vierge Marie avait certainement dû amener au moins un linge blanc propre pour pouvoir poser sur la paille peut-être un peu souillée de la crèche, parce que c'était une mangeoire pour animaux. Hein. Vous savez que cette crèche a été conservée. Si vous allez à Rome, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, l'entrée de la basilique Sainte-Marie-Majeure, juste à côté de la tombe de Saint-Jérôme, il y a le bois de la crèche. Le bois de la crèche a été conservé et dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. En demandant à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, bien utiliser ce temps de Noël, qui est un temps de grâce, qui est un temps de paix, alors que le monde entier est en guerre, que les gens ne pensent qu'à une seule chose, à s'enrichir et à jouir des choses matérielles, pensons à la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le monde moderne est tellement malheureux, c'est parce qu'ils ont enlevé l'unique personne capable de nous donner la paix. La seule personne qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur. Vous serez toujours déçus par les hommes, d'une façon ou d'une autre. La seule personne qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à bien ouvrir la porte de notre âme pour qu'elle puisse introduire son divin Fils, elle va venir nous l'apporter, nous pourrons aussi le bercer comme les bergers et les rois mages ont dû le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.